Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue au groupe de travail de budget de finances et d'opérations. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 mai. Il est 13h UTC. Sur cet appel aujourd'hui, nous avons sur le canal anglais Ricardo Holmquist, Maureen Hilliard, Dave DiChangela, Justin Chu, Mariana Cosley, Javier Juarovic, Cheryl Langdenor, Holly Rage, Sonic Du XP, Sarah Kidden, Rondal Silva, Joanna Kulesa, Harold Arcos, Marita Moll, Nadira Elrash et Sébastien Bachelet et Alberto Soto. Il n'y a personne sur le canal espagnol? Ah, non, excusez-moi. Alberto Soto vient de se joindre au canal espagnol. Et sur le canal français, nous avons Abdeljalil Bachar Bon. Nous avons les excuses d'Olivier Crépin-Leblanc, Satish Babou, Alain Greenberg et Clément Gentil. Au niveau du personnel de l'AICA, nous avons Heidi Ulrich, Sylvia Vivanco, Becky Nash, Shani Kudway, Mary Wong, Victoria Yang et moi-même, Yeshim Naslar. Et je vais m'occuper de gérer cet appel. Nous avons un service d'interprétation français en espagnol. Nos interprètes d'espagnol sont Paola et David et nos interprètes de français sont Claire et Isabelle. Avant de commencer cette réunion, je vous demande de donner votre nom avant de prendre la parole pour la transcription et pour que les interprètes vous identifient sur chaque canal. Je vais maintenant donner la parole à Ricardo. Ricardo Holmquist, vous avez la parole. Ricardo, au micro. Merci beaucoup, Yeshim. Excusez-moi, il y a une personne qui parle sur le canal Adigo. Bien, pour cet appel d'aujourd'hui, nous avons une conversation des plus intéressantes et nous aurons une discussion au niveau des finances et nous parlerons du plan financier opérationnel pour l'exercice fiscal 2021-2025. Et nous remercions aussi Becky Nash et Shani et Kidway qui vont se joindre à nous sur cet appel. Ensuite, Mary Wong qui va nous parler des demandes additionnelles de budget. Et nous aurons donc le résultat des dernières analyses. Ensuite, nous aurons Holly Reich qui va nous présenter la version préliminaire du PTI pour le plan stratégique de l'exercice fiscal 2021-2024. Bien, je vais maintenant directement donner la parole à Becky Nash. Becky, vous avez la parole. Merci, Becky Nash au micro. Merci, Ricardo. J'ai une petite présentation que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Et les orateurs aujourd'hui sont les membres de l'équipe de ICANN et Org. Et donc, je suis accompagnée de Victoria et de mon collègue. Donc, je vais passer rapidement sur l'ordre du jour. Et ensuite, bon, ici, vous voyez une première approche du plan financier opérationnel, du plan de 5 ans. Nous avons plusieurs diapositives concernant le plan et le budget de l'exercice fiscal 2021. Et ensuite, nous verrons le processus de planification finale et la participation de la communauté à ce processus. Bien. Bien, une diapo de plus, voilà. Bien, donc une petite présentation en décembre 2019. ICANN.org a publié la version préliminaire du plan de 5 ans de finances et opérationnel, exercice fiscal 2021-2025, a été présenté aux commentaires publics. Cette version, ces versions préliminaires ont été faites en se basant sur le plan stratégique 2021-2025. Suite à la période de commentaires publics, il y a eu la pandémie du COVID-19 et cela a eu un impact important sur l'économie mondiale, comme tout le monde le sait, et en fonction de cela, ICANN.org pense que les activités planifiées et la position financière pour ce qui reste l'exercice fiscal 2020 qui finit le 30 juin 2020 et pour l'exercice fiscal 2021 souffrira un impact. Et le résultat sera un nouveau plan qui a été avec des prévisions qui ont été faites pour un nouveau plan financier. Et nous avons organisé plusieurs webinaires au début du mois de mai avec la communauté avant de soumettre ces plans au Conseil. Ces plans ont été adoptés par le Conseil d'administration en mai 2020. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce plan adopté et qui va être mis en œuvre au début de l'exercice fiscal si notre processus de communauté habilité est organisé. Bien, nous allons passer à la prochaine diapositive. Je vais demander à Victoria de présenter le processus de planification. Victoria, au micro. Merci, Becky. Donc, Victoria, au micro. Je vais vous faire un petit récapitulatif du processus de planification qui comprend 4 parties. Sur cette diapositive, vous voyez donc le résultat de ces 3 premières, ou le développement de ces 3 premières parties. Le plan stratégique 2021-2025 va comprendre plusieurs questions importantes. Où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous voulons aller? Et le résultat est un plan stratégique qui reflète la mission et les objectifs et avec des objectifs stratégiques à long terme, des buts et pour l'organisation. Après donc le plan stratégique, nous passons au plan opérationnel et au plan financier. Et le plan opérationnel est un plan de gestion à long terme qui nous aide au niveau des tactiques à montrer comment, quand et comment nous allons organiser ce plan stratégique. Et la dernière partie est le plan opérationnel et le budget annuel qui se focalise sur les engagements de l'organisation pour l'année et l'exercice fiscal. Celui sur 5 ans montre un plan à long terme. La dernière partie de ce processus de planification est le reporting des progrès, qui n'est pas sur cette diapositive. Mais il est important de dire que cela termine sur les mécanismes de reporting. ICANN a plusieurs mécanismes de reporting comme le rapport du PDG, le rapport annuel, le rapport, les indicateurs, et nous avons introduit une nouvelle période de 5 ans et la planification commence à travailler sur l'amélioration des mécanismes pour les progrès vers les plans sur 5 ans et sur 1 an. Nous allons appliquer cela, ce que nous avons appris au cours des dernières années, et nous allons donner davantage de détails par la suite, dans la suite de ma présentation. Prochaine diapo. Comme Baki l'a dit, nous avons modifié beaucoup de choses depuis la conclusion du processus de commentaires publics à cause de la pandémie de COVID-19 et comme résultat, ICANN s'attend à ce que ses activités et son organisation financière pour ce qui reste de l'exercice fiscal 2020 et pour l'exercice fiscal 2021 sera modifiée, souffrira des modifications. Et au mois de mars et au mois d'avril, nous avons fait une évaluation de la situation telle qu'elle était. Et à la fin du mois d'avril, nous avons publié 2 séries de documents et que vous pouvez voir ici. La première série est un document préliminaire qui montre les améliorations venant de la période de commentaires publics qui s'est terminée à la fin du mois de mars. Et la deuxième série est une série pour la version adoptée par le Conseil qui reflète les projections financières les dernières et surtout pour l'exercice fiscal 2021 et pour l'exercice fiscal 2021-2025. Lorsque le Conseil aura adopté cette version proposée de ce document final, et cela a été fait au début du mois de mai. Nous avons mis à jour notre site web. Nous envoyons les liens ici. Donc, en fonction de ce document, vous pouvez accéder à tous ces documents sur la page de commentaires publics. Ici, je vous envoie l'URL, le lien URL, pour que vous y accédiez. Vous avez donc la possibilité aussi de nous écrire ou directement d'accéder à ces documents. Bien, je vais m'arrêter ici et nous allons voir s'il y a des questions avant de passer à la suite de ma présentation. Bien, je vois qu'il n'y a pas de questions concernant ce qui vient d'être présenté. Donc, peut-être que nous pouvons passer à la suite de la présentation.
Bonjour. Donc, je vais présenter une mise à jour sur le plan financier et opérationnel qui a été adopté et donc qui est pour 2021-2025. Comme cela a déjà été dit, la version préliminaire qui avait été publiée en 2019, en décembre, sur la base de toutes les élaborations qui avaient été faites jusqu'à ce point, donc tout ce qui avait été publié pour commentaires publics, donc reste des points de référence très utiles, puisqu'il donne tous les détails relatifs au plan et tout le travail qui avait été effectué par ICANN-ORG. Les plans préliminaires ainsi que les plans révisés ont été publiés sur la page de commentaires publics de manière à ce que tous puissent utiliser ces versions préliminaires qui avaient été envoyées pour commentaires publics comme point de référence. Le plan révisé reflète une réduction du financement, donc il s'agit d'un plan quinquennal et donc nous pensons qu'il y aura une réduction de 5% sur ces 5 ans. En termes de financement, ceci est dû à une réduction prévue du nombre d'enregistrements de noms de domaine et des parties contractantes en 2021, donc la première partie du plan quinquennal. Pour le reste des années, donc de 2022 à 2025, ces exercices-là, nous devrions avoir une croissance modeste du financement, mais il demeure beaucoup d'incertitudes au jour d'aujourd'hui par rapport à l'avenir. Donc, ces plans incluent de récents développements en financement sur les initiatives relatives à la sécurité, à la stabilité et à la résilience du DNS au cours des 5 années à venir. Et donc, nous allons effectuer des prévisions et des mises à jour sur le financement pour les 5 exercices à venir par rapport à ce qui se passera en 2021. Donc, la page suivante, continuation du résumé des modifications. Donc, ICANN-ORG a fait l'équilibre entre ses dépenses et entre les prévisions de réduction de financement. Cela veut dire qu'il y aura donc une réduction dans le coût des déplacements, principalement due aux restrictions sur les voyages, puisque aucune réunion en personne ne devrait avoir lieu avant septembre 2020. Et nous imaginons que les voyages reprendront lentement pendant l'année 2021. Le nouveau plan reflète également des propositions de modification des opérations, des fonctions, avec un soutien du travail de la communauté dans le renforcement des capacités, de l'éducation, de la formation et de la communication. Donc, il s'agissait là des engagements pris dans les plans initiaux. Il y a également une réduction des coûts du personnel sur ce plan quinquennal. Il devrait y avoir moins d'embauches pour les nouveaux postes et une moyenne d'effectifs de 395 par rapport aux 410 qui avaient été prévus à la base. En termes d'initiatives opérationnelles, qui demandent donc des ressources supplémentaires, donc il s'agit des initiatives opérationnelles qui ne sont pas absorbées dans le cadre des ressources qui existent avec Anne-Orgue. Donc ces initiatives opérationnelles ont été reportées à plus tard et rééquilibrées pour les répondre un petit peu sur les 5 années à venir. Donc le montant total s'appliquera sur les 5 années. Et il y a également une recommandation de report de la décision de contribuer au fonds de réserve. Et cette contribution sera portée pour après l'exercice 2022. Donc cette diapositive vous montre un petit peu ce dont j'ai parlé sur les 5 ans de manière cumulative par rapport au plan. Donc vous voyez que le plan préliminaire, qui est donc soumis à commentaire public par rapport au plan adopté, avait un financement total sur les 5 ans qui a été réduit de 5%. Donc, ces dépenses totales, et j'exclus là les initiatives opérationnelles qui ont également été réduites de 5%, donc les opérations, les initiatives opérationnelles également qui sont au soutien du plan stratégique n'ont pas été changées, il faut le savoir, c'est simplement que nous les avons reportées, nous les avons étalées sur les 5 ans. Sur les 5 ans, le fonds de réserve verra moins de contributions, mais nous en arrivons malgré tout à la cible qui était prévue. Et ensuite, vous avez la moyenne des effectifs en nombre de personnes, pas en dollars, donc nous avons une réduction de 4%. Et ceci est dû au ralentissement des embauches. Je passe ensuite à la diapositive suivante pour évoquer rapidement ce qui a été présenté dans le cadre du plan financier adopté. Et il s'agit toujours du plan quinquennal. Donc, je souligne que sur cette diapositive, vous avez donc le financement et les dépenses par année. Et vous pouvez donc voir sur la base des sous-totaux, vous avez donc tout à droite le total pour les 5 ans, mais donc à chaque fois, vous avez l'allocation au fonds de réserve, donc la prévision de 6 millions. Vous avez les initiatives opérationnelles de 24,5 millions. Et cela vous donne un total avec moins d'allocation au fonds de réserve et moins en une enveloppe initiative, mais donc vous en arrivez à un excédent net de 0. Donc l'équilibre. J'aimerais ensuite souligner le total que vous avez ici et qui fait partie du plan quinquennal adopté. Vous voyez en gris l'estimation financière quinquennale par rapport aux initiatives. Et donc, encore une fois, tout ceci est inclus dans le plan quinquennal. Donc, vous voyez le point médian en gris. Donc, je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations, mais je vais maintenant passer la parole à Chani qui va parler de la partie suivante. Il s'agit donc du plan et du budget opérationnel pour l'exercice 2021. Chani au micro, merci beaucoup. Je sais que nous n'avions que 15 minutes pour présenter tout ceci. Donc, je ne sais pas, Ricardo, si vous souhaitez qu'on passe à la partie questions-réponses. Sinon, je peux présenter ceci. Je vais commencer par cette diapositive et j'attendrai que vous m'indiquiez ce que vous souhaitez. Ricardo, au micro. Vous avez encore 8 minutes, donc allez-y. Chani, au micro. Très bien, merci. Donc, je vais vous faire une présentation rapide du budget pour l'exercice 2021, beaucoup des principes sont similaires à ce que Becky a mentionné sur le plan quinquennal en ce qui concerne à la fois les initiatives opérationnelles et le plan dont a parlé Becky tout à l'heure. Donc, ce plan et budget avait été publié en décembre 2019 et il a été révisé étant donné l'impact de la crise économique. Tous les commentaires qui ont été reçus pendant la période de commentaires publics ont été incorporés dans les supports qui ont été publiés et adoptés, et donc il n'y a pas eu de changement de substance à ces documents. Les documents préliminaires sont toujours considérés comme des ressources très importantes et en grande partie, ils correspondent à la réalité. Nous avons souligné certains des changements, mais d'une manière générale, il n'y a pas eu de changement de substance par rapport au plan préliminaire. Nous allons passer à la diapositive suivante pour voir un petit peu dans le détail. Donc, vous voyez que lorsque nous avons publié nos prévisions, on en était à 410 millions. Le financement. Alors, pour pouvoir comprendre l'impact financier de la crise, nous avons imaginé plusieurs scénarios. Il y a beaucoup d'hypothèses, donc nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais étant donné la réduction du nombre d'enregistrements et le nombre de parties contractantes, nous devrions voir une baisse de 11 millions de dollars dans les financements. Nos effectifs sont en déclin également, donc cela veut dire qu'il y a moins de 3 millions de dollars de dépensés. Et je souhaite mentionner que nous allons donc commencer. Nous avons eu moins de dépenses en 2020, ce qui veut dire que nous commençons 2021 avec un petit excès. Il y a beaucoup de restrictions dans les voyages, donc les dépenses en termes de voyages sont inférieures de 3,2 millions de dollars, mais nous pensons que petit à petit, nous allons revenir à des niveaux normaux. Cela a également un impact sur les services professionnels, les coûts qui sont relatifs aux réunions, certains des projets qui sont impactés étant donné les restrictions sur les voyages. Autre point intéressant, donc le budget de contingence demeure, donc 5,2 millions de dollars. Alors, la contingence, c'est un poste que nous utilisons pour tout le travail non identifié. Lorsque les budgets sont approuvés et lorsqu'ils sont révisés, il y a d'autres projets qui parfois se présentent et donc nous souhaitions garder ce même niveau de financement dans la partie contingence. Dernier point, donc contribution au fonds de réserve. Nous avions mis 3 millions de dollars et nous l'avons éliminé pour cette année, pour 2021. C'est une contribution prévue, le fonds de réserve, donc les contributions sont évaluées tous les ans. Et s'il y a possibilité, on pourrait évaluer la contribution de réserve. Mais étant donné les questions et les incertitudes, nous avons pour l'instant prévu d'éliminer cette contribution au fonds de réserve. Diapositive suivante. Voici maintenant le processus de budgétaire supplémentaire. Je pense que vous connaissez ce processus. Il est séparé et il permet aux SO et AC de faire des supplémentaires personnalisés pour certains projets qui ne font pas partie du budget général. Vous savez que la date de l'année dernière était, la date butoir était le mois de janvier. Donc, lorsqu'il y a eu recommandation d'adoption du budget, nous avons publié un rapport incluant toutes les demandes qui avaient été reçues, celles qui avaient été approuvées, celles qui ne l'avaient pas été, et nous allouer un financement à ces différentes demandes. Donc, vous pouvez voir les documents sur le budget que nous avons publiés en ligne si vous souhaitez davantage d'informations. Tout ceci est sur la page Wiki, ces demandes supplémentaires. Nous avons 35 demandes de 14 organisations différentes et 16 de ces demandes ont été approuvées pour un total de 3 millions de dollars. Sur la diapositive suivante, vous voyez la répartition de ces demandes selon les différentes SO et AC. Vous voyez qu'il y en a 4 qui avaient été demandées par l'ALAC, 2 ont été approuvées, 2 ne l'ont pas été. Et il y avait également des demandes spécifiques des RALO, 2 qui ont été approuvées, 5 qui ne l'ont pas été. Donc vous avez des informations très spécifiques dans le rapport par rapport aux critères utilisés dans ce processus et par rapport aux raisons pour lesquelles elles ont été adoptées ou pas. Et j'ai vu que Marie avait dans le chat mis un lien par rapport à ça. Donc merci Marie. Diapositive suivante. Vous avez là une présentation générale du type de demandes qui ont été reçues. Vous voyez qu'en grande partie, relatives au voyage et à la civilisation. Sur les 16 qui ont été approuvées avec trait à ce sujet, vous voyez que 190 770 étaient relatifs au voyage. Ensuite, quelques points intéressants avant de vous passer la parole pour vos questions. Nous avons donc un calendrier pour le budget 2022 et pour le plan quinquennal et le plan financier sur 5 ans. Ces dates sont tout à fait similaires à ce qu'on pouvait voir par le passé. Je voulais simplement souligner que c'est la meilleure manière d'être impliqué. Nous apprécions tout le feedback que nous avons reçu cette année. Dans tous les détails là-dessus, mais nous devrions lancer le processus en septembre et ensuite mettre en place le calendrier. Il y aura des sessions lors de l'ICANN 69, séances publiques, ainsi que séances spécifiques avec des groupes de travail comme le vôtre, par exemple. Nous devrions publier le projet préliminaire en décembre, donc un petit peu comme nous l'avons fait l'année passée. Et la fin de la période de commentaires publics sera en février. Le mois de janvier, il y aura un webinaire qui présentera le document pour clarifier les questions au mois de janvier, de manière à ce que vous ayez tous les informations nécessaires pour contribuer à la consultation publique. Et ensuite, il y aura un rapport en avril, un rapport sur les commentaires publics. Ensuite, nous aurons un autre webinaire pour les propositions de documents adoptés en avril également. Ceci étant, s'il y a d'autres détails, s'il y a par exemple des personnes qui n'ont pas participé au webinaire, eh bien je vous encourage à revenir sur votre wiki, sur notre wiki, où vous avez davantage d'informations détaillées par rapport au plan opérationnel et au budget. Je crois que c'était la dernière diapositive.
Ici, vous avez une vision d'ensemble. Nous apprécions vraiment les commentaires que nous recevons de votre groupe et de la communauté et nous espérons recevoir le plus d'informations possible pour ajuster notre plan et nos plans de développement. Bien, maintenant, je vous donne la parole pour les questions et les réponses. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat auxquelles nous n'avons pas répondu. Et sinon, levez la main. Et merci beaucoup. Et nous avons Judith Hellerstein qui a la main levée. Allez-y, Judith. Chenny, bonjour, c'est Judith au micro. J'ai plusieurs questions à vous poser. Vous avez dit que les voyages représentaient 20%, mais si et nous avons eu moins de voyages, beaucoup moins de voyages, je pensais qu'il y aurait une plus grande économie. Ensuite, les fonds de réserve. Il me semble me souvenir que vous nous avez donné 5 ans. Donc, est-ce qu'on a, si on regarde dans 5 ans, on aura l'impact de ce qui était prévu pour les fonds de réserve? Et ensuite, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais je sais que vous allez donner davantage d'informations concernant le budget. Lorsque certaines réunions sont des réunions considérées comme des réunions permanentes et lorsqu'il y a des complications, vous avez parlé de consultants. Et il y a des consultants qui sont embauchés, d'autres qui sont des consultants temporaires. Chani, au micro. Oui, il y a plusieurs questions. Alors ici, hein, la première question portée sur les voyages et le prix de ces voyages pour la Réunion. Nous avons dû évaluer il y a 6 semaines les changements qui avaient lieu à cause de la pandémie. Et nous sommes partis du principe qu'il n'y aurait pas de voyages pour les mois de juillet et août et que ces voyages augmenteraient à partir du mois de septembre jusqu'à la fin d'année. C'est comme ça que nous sommes arrivés à un nombre de voyages de 20% moins inférieur. Hein. Maintenant, en général, ICANN n'a pas beaucoup de voyages au mois de juillet et d'août et au mois de septembre non plus parce qu'il n'y a pas de réunion d'ICANN. Donc, nous avons pensé qu'il y aurait 3 réunions d'ICANN et c'est pour ça qu'on a une réduction de seulement 20%. Si pour une raison ou une autre, les restrictions sur les voyages se prolongent, ces économies seront supérieures. En ce qui concerne le fonds de réserve, le conseil d'administration a approuvé la stratégie et pour donc ce plan de ce fonds de réserve. Et même si nous devons reporter un petit peu la contribution à l'année prochaine, nous pensons quand même que nous allons remplir le fonds de réserve dans le temps voulu et indiqué par le Conseil. Mais je dois aussi souligner que nous allons encore évaluer dans la mesure où il y a un excès et généré par le prochain exercice fiscal. À ce moment-là, nous verrons si nous augmentons ce chiffre. La dernière question concernant les contractants pour les réunions d'ICANN, les coûts associés à l'évaluation et à l'organisation d'une réunion de l'ICANN. Il y a le personnel interne qui va donc organiser la réunion, la partie logistique de la réunion. Et puis, il y a aussi et tout ce qui concerne les parties contractantes hein, qui vont faire un travail temporaire. Donc, on évalue constamment ces coûts et en fonction du personnel et des parties contractantes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Julie, ton micro, oui, mais nous n'avons pas de réunion au mois de juin et donc c'est pour ça que je pensais que les économies auraient dû être supérieures. Je précise que notre exercice fiscal commence le 1er juillet 2021 et termine le 1er juillet 2021. Hein? Donc, c'est pour cela que ça a un impact inférieur. Tous les coûts associés avec cela vont être reflétés dans le prochain exercice fiscal. Hein? Et donc, l'impact sera sur cet exercice fiscal et non pas sur le prochain, puisque l'économie sera faite sur ce mois de juin. Eh bien, Ricardo, au micro. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je remercie Becky, Shani et Victoria pour leur présentation. Et nous vous invitons à envoyer toutes les nouveautés qui pourraient surgir vu la période de pandémie que nous traversons sur le site. Hein. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux demandes de budget additionnel. Hein. Et merci beaucoup, Ricardo. C'est Mary Wong au micro de ICANN.org. Je vois qu'il y a beaucoup de voix et de noms bien connus sur cet appel. Je n'ai pas de présentation à vous faire aujourd'hui. Bonjour, Cheryl, je vous vois dans le chat. Je n'ai pas de présentation à vous faire aujourd'hui parce que le processus est un processus que tout le groupe connaît bien et mon collègue Chani, à travers les diapos qu'il a présentées, a bien présenté une vision d'ensemble du processus et le résultat de l'exercice fiscal 2021. Bien. Et donc, Ricardo, je pensais que je préférais répondre aux questions des membres du groupe plutôt que de revoir l'ensemble du processus. Hein. Alors, si vous avez des questions sur des demandes en particulier ou peut-être sur l'année prochaine, donc je vais m'arrêter. Je vais voir comment est-ce que vous voulez, ou je vous écoute, Ricardo, vous me dites comment est-ce que vous voulez que l'on fasse. Ricardo, au micro. Oui, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des questions, de passer aux questions. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Il me semble que la plupart des membres de notre groupe, hein, de l'ABR vont prendre la parole au nom de ALAC, et seulement 25%. Viennent d'autres groupes. Nous avons compris que les voyages ne pouvaient pas être inclus. Ensuite, on voudrait savoir comment ça fonctionne, de façon à ce que l'année prochaine, nous soyons mieux préparés et pour donc ce système. Eh bien, Marie Wong, parfait, j'ai bien compris. Je vois que vous avez Judith à la main levée. Avant de donner la parole à Judith, je vais répondre aux commentaires que j'ai entendus. Peut-être que je peux faire cela en vous rappelant, merci Yeshi, merci mes chers collègues, hein, de mettre cela sur l'écran. Hein. Bien, donc vous voyez ici les points, ici les quatre points que je vais récapituler. Ici, ce sont des principes fondamentaux et que l'équipe interne a commencé à appliquer à toutes les demandes de budget additionnel et à toutes les ABR ces dernières années à cause des leçons apprises pendant les autres cycles de ABR suite aux problèmes qui pouvaient surgir, aussi à cause des changements dans le budget au cours de ces deux dernières années, puisque vous le savez, l'enveloppe budgétaire pour un grand nombre d'activités a dû être modifiée et réduite dans certains cas, et y compris pour les ABR. Donc une série de points a fait qu'il a fallu agir, être clair et établir des principes qui allaient être appliqués. Et ces principaux principes sont là. Le premier, c'est qu'on va analyser tous les ABR pour voir si ils sont liés aux politiques actuelles ou au travail actuel en cours. Hein. C'était un point très important derrière toutes les décisions de l'ABR, non seulement pour l'exercice fiscal 2021, mais aussi pour celui de l'année dernière. Et lorsque nous disons que cela doit être basé, je parle des demandes que vous allez soumettre. Hein. Donc, Ricardo, une des choses que l'équipe interne encouragé par notre équipe exécutive qui est responsable, hein, et c'est-à-dire David Olive et Sally Costleton, on nous a donc enregistré à regarder les formulaires utilisés pour les ABR et on a pensé qu'il pouvait être possible d'avoir des modèles et des formulaires plus spécifiques et qui incluraient davantage d'informations et d'évaluation des coûts, hein, au préalable, parce que nous avons besoin d'estimer et la demande au préalable et voir si la communauté peut dépenser cela et si des fonds alloués peuvent être débloqués au cours de ces deux dernières années. Et pour certains groupes, peut-être pas pour Atlarge, mais pour certains groupes, il y a une série de demandes, de requêtes qui semblaient méritoires en termes des activités proposées, mais qui, il y avait peu de détails, et je vais vous donner un exemple. Ça peut être, par exemple, participer à un événement en particulier. On nous donne le nom de l'événement, la date, mais les activités proposées sont sensibilisation ou faire un voyage, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et ça ne démontre pas et que si l'on fournit des fonds pour cette activité, cela répondra aux nécessités telles que cela est indiqué ici. Hein. Donc, nous avons besoin d'analyser la demande, la requête, et nous avons ces principes directifs. Et une des améliorations que nous voudrions faire pour l'année prochaine est d'avoir formulaire plus clair et amélioré. Merci pour vos commentaires et dans le chat. Vous me dites que ce serait utile. Et vous me demandez s'il y a eu des directives pour le chiffre maximum des demandes. Je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de type de requête parce que ce n'est pas à ICANN.org ou ce n'est pas non plus à nous de diriger, de donner des ordres à la communauté en termes des types d'activités que la communauté veut réaliser en priorité. Donc, les seules directives que nous vous proposons et que nous appliquons, par exemple ici, sur ce document, vous le voyez, et pour les principes d'évaluation du ABR, hein, qui figurent là aussi, hein, nous fournissons donc des directives pour le type de requête que la communauté souhaite et évaluer, mais nous n'entrons pas dans la spécificité. Hein, vous devez plutôt vous occuper de formation ou de sensibilisation plutôt que de voyage. Ce n'est pas notre rôle, mais il est clair que lorsque nous préparons et analysons les demandes, et chaque groupe va avoir des demandes qui vont changer en fonction des années, et nous allons devoir répondre à ces demandes. Et Heidi et son équipe ont été très actifs, ont répondu. Hein, aussi, l'équipe des finances aussi s'est occupée de répondre et de donner des explications. Par rapport aux demandes à large, je dirais que Shani a montré des chiffres, Ricardo a dit cela aussi. Ce que je voudrais ici dire, c'est que je ne vais pas regarder les pourcentages de demandes qui ont été acceptées et celles qui ont été rejetées, ou le nombre de demandes acceptées ou pas, les demandes qui ont été financées dans chaque groupe. Je ne veux pas analyser cela parce que ce n'est pas comme cela que notre équipe fonctionne et ce n'est pas comme cela que l'équipe exécutive analyse les choses. Et le comité des finances du conseil d'administration ne regarde pas les choses comme ça, ne voit pas les choses comme ça non plus. Il ne s'agit pas de donner deux choses à un groupe et de refuser les deux demandes à un autre groupe. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Il y a une raison, hein. Nous voulons être équitables, mais cela veut dire que nous allons faire cela en fonction de l'enveloppe budgétaire que nous avons pour ces requêtes. Nous essayons de nous assurer que toute la communauté va être traitée de la même manière et que les mêmes principes sont appliqués à tout le monde, hein, et pour répondre aux besoins et à ce qu'on nous réclame, hein, donc en appliquant toujours ces principes. Donc, un des commentaires que nous entendons souvent et une des questions à laquelle nous répondons souvent concernant les voyages, et c'est ce qui a été montré sur la diapo, sur les diapos que nous avons montrées, hein, ce que nous avons vu, c'est que vu la nature des voyages, les demandes, hein, sont en général plus importantes et ce qui est alloué aussi est plus important que les demandes faites pour certaines activités, comme par exemple les séminaires web. Ce n'est pas exactement comme cela qu'il faut regarder les choses, mais si vous regardez le type de demandes concernant les voyages qui ont été approuvées, vous allez voir ces demandes n'étaient pas très spécifiques et qu'elles étaient liées en général à une connexion directe avec des politiques ou des travaux techniques actuels.
Lorsque les propositions, les approbations suggérées ont été amenées au comité de financement du conseil, les décisions ont été prises dans ce sens. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre patience et je vais écouter vos questions. Judith au micro. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions. Ce serait également utile parce qu'une de nos demandes n'a pas été approuvée sur la base d'une décision politique relative à la technologie et aux priorités en termes de technologie. Donc, il serait utile pour ce type de choses d'avoir une meilleure idée à l'avance, de savoir, bon, de toute façon, ceci ne sera pas approuvé. Donc, d'avoir une discussion à l'avance pour qu'on puisse répondre à ce type de questions. Et il y a eu quelque chose d'un peu confus. J'avais fait une proposition sur l'AFT, mais elle a seulement été approuvée en partie. Le titre disait approuvé, et puis après, on voyait que le reste de la moitié de la proposition n'avait pas été approuvée. Donc j'aimerais que les choses soient plus claires. C'était un peu compliqué à comprendre. Nouvelle intervenante au micro. Merci Judith. Donc, je vais commencer par le deuxième commentaire. Ce que nous essayons de faire, et ce que nous avons fait dans d'autres rapports, c'est que pour le titre, nous faisons référence à la demande en général. Et donc, comme vous l'avez dit, pour le RDT, c'était une demande en anglais et en espagnol de RDT. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on écrit approbation partielle, comme c'était le cas par exemple ici. Donc, désolé si cela n'était pas très clair, on pourrait peut-être effectivement faire un rapport différent, mais nous souhaitons indiquer qu'il y a eu une demande qui était plus large que ce qui a été finalement accordé. On pourrait peut-être essayer de voir comment clarifier notre réponse. Nous allons y réfléchir. Par rapport à la première question, avoir des informations à l'avance, je suis d'accord, il faut que l'équipe interne continue d'y réfléchir, nous l'avons déjà fait, et si vous avez des suggestions d'amélioration de deux choses, amélioration d'abord de la communication entre org et la communauté, dans votre préparation annuelle au processus de soumission, quel est le type d'information dont vous avez besoin, ce serait utile pour nous de manière à ce que nous puissions préparer des informations à vous communiquer à l'avance. Deuxième chose à laquelle nous avons réfléchi, y aurait-il un moyen pour nous d'entrer en lien avec la communauté au tout début du processus de soumission? C'est un petit peu la conversation que nous avons maintenant finalement. L'idée serait de ne pas être trop spécifique pour un certain nombre de raisons. C'est un petit peu l'œuf et la poule. Nous ne pourrons pas de manière proactive deviner que ce sera une demande sur laquelle, à l'interne, nous nous disons « Ah, de toute façon, l'org, il travaille déjà, ne faites pas ce type de demande. » Donc, il faut qu'il y ait une certaine souplesse. Mais il faut peut-être aussi qu'il y ait davantage de communication plus tôt dans la première partie du processus de soumission, plutôt que d'avoir la demande qui arrive et après leur arrivée, voire même à la fin, à la clôture du processus, nous dire oui, cette demande ne correspond pas aux normes établies. Donc, tout ce que nous pouvons faire au sein de notre équipe pour faciliter ce type de demande qui correspondent aux objectifs dans l'enveloppe limitée du budget, eh bien, nous sommes prêts à écouter des suggestions que votre groupe pourra avoir pour donc y arriver. Oui, tout à fait. S'il y a des suggestions d'amélioration, eh bien, nous sommes tout à fait prêts à les écouter. Comme Heidi le dit, vous avez raison, tout ceci, comme elle le dit dans le chat, les décisions ABR, donc le texte est la réponse définitive pour les ABR. Donc effectivement, ce qui est publié, nous essayons d'être très clairs, d'être très précis, de manière à ce que le document soit un point de référence pour toute la communauté et pas simplement pour le groupe qui a envoyé la requête. Ricardo, je ne vois pas d'autres mains levées, mais je suis prête à écouter d'autres questions s'il y en a, s'il y a du temps. Sinon, vous savez très bien comment me trouver. Ricardo au micro. Nous n'avons pas vraiment plus de temps, mais je vous remercie, Marie. Nous allons ensuite passer la parole à Olly Reich pour la PTI. Donc, c'est un suivi de la semaine dernière. Yessi, mon micro. Olly, est-ce que vous pouvez parler plus fort? On ne vous entend pas. Est-ce que ça va mieux? Beaucoup mieux. Merci. Donc, Olly au micro. Donc, c'est un suivi de la semaine passée. Je parlais des différents points que j'avais identifiés, de ce qu'il fallait dire en réponse à la proposition du plan de la PTI. Donc, j'ai transformé tout ceci en un texte et donc je vais vous parler des trois points les plus importants qui sont ressortis de ce que j'avais dit, également de ce qui a été dit pendant l'appel. Donc, première chose, connaissance et compréhension de ce que fait la PTI et de ce qu'elle est. Donc, dans le plan en lui-même, nous avions reconnu que, finalement, ce que fait et ce qu'est la PTI n'est pas toujours ce qui a été suggéré pendant l'appel de la semaine passée. Et une des choses que moi j'ai retenues ici, c'est que l'idée, ce serait d'avoir une campagne d'éducation et de sensibilisation, non seulement à l'ICAM, mais un des objectifs du plan, c'était d'informer et d'entrer en lien régulièrement avec les différentes entités, l'ICAM, l'IETF, etc. Donc, l'idée, ce serait donc une campagne éducative qui améliore non seulement la compréhension au sein de l'ICAM, mais au sein des autres organisations avec lesquelles la PTI devrait travailler dans le cadre de son travail relatif aux fonctions de nommage. Alors ensuite, le point suivant, alignement des plans financiers et stratégiques de la PTI et de l'ICAM. Donc dans le cadre du contrat entre l'ICAM et la PTI a un cycle de 4 ans. Mais, étant donné que la PTI fonctionne dans le cadre d'un contrat avec l'ICAN et étant donné qu'elle est financée par l'ICAN, il devrait y avoir plus de correspondance des plans stratégiques et des budgets. Je ne sais pas s'il est possible de changer le calendrier du plan stratégique de la PTI, mais il doit y avoir un meilleur alignement entre les deux. Parce qu'à la base, ce que fait la PTI, c'est de mettre en œuvre en partie le plan stratégique de l'ICAN et elle utilise l'argent de l'ICAN pour le faire. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour améliorer les choses, mais la planification stratégique et la planification budgétaire devraient être mieux alignées. Si on peut descendre, s'il vous plaît. Dernière recommandation, une des choses qui a été dite dans le plan stratégique de la PTI, c'est qu'un des impacts éventuels serait toute de la commune qui pourrait avoir un impact sur le travail de la PTI. Et pour moi, un des domaines évidents qui est mentionné de manière spécifique dans le plan stratégique de la PTI, c'est l'impact des réglementations de politique sur la transparence des registres IANA. Lors de la discussion la semaine passée, Alan a mentionné un impact relatif qui peut également se faire ressentir sur les autres processus d'élaboration des politiques et sur la PTI. Alors, j'ai participé au séminaire sur la PTI, sur le plan, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un certain niveau de coordination et il faudrait qu'il y ait des opportunités spécifiques pour la PTI de participer ou au moins de pouvoir évoquer son point de vue sur les politiques pour que s'il y a un impact dans le cadre du processus de PDP sur les politiques, eh bien la PTI puisse avoir l'opportunité d'indiquer le niveau d'impact qu'un changement aux politiques pourrait avoir sur le fonctionnement de la PTI. Donc voilà les trois domaines que j'ai soulignés et que je considère comme des domaines dans lesquels l'ALAC devrait apporter un commentaire. Donc il s'agit d'un document préliminaire, il existe sur le wiki, donc si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez les inclure sous forme de commentaires, sinon ce sera ce texte qui représentera le point de vue de l'ALAC. Donc voilà, je vous laisse la parole si vous souhaitez poser des questions ou faire des commentaires. Ricardo, on prend le micro. Oui, merci beaucoup Oli pour cette présentation. Je comprends, si je comprends bien, il faut l'envoyer le 1er juin. Et je crois aussi qu'il y a un vote de l'ALAC qui sera nécessaire, donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, nous avons jusqu'à mercredi. Donc, peut-être que demain, il va falloir envoyer ceci à l'ALAC pour le vote, pour être prêt pour lundi. Et donc, c'est notre calendrier. Nous n'avons pas vraiment le temps de faire beaucoup de commentaires.
Et Holly, au micro, merci Ricardo. Vous avez tout à fait raison et c'est pour cela que cette version préliminaire reflète les discussions que nous avons eues la semaine dernière. Mais je pense que c'est une période de 24 heures. Rappelez-vous que nous avons jeudi, vendredi. Je pense que nous avons 24 heures. Et je vais... J'ai demandé sur le wiki, tout le monde a dit que non. Donc, ou bien nous faisons le commentaire final maintenant ou dans les prochaines 24 heures. Je ne peux pas imaginer que le PTI ne va pas accepter de commentaires qui sont en retard d'un jour ou de deux jours au maximum. Ricardo, au micro. Ricardo, au micro. Excusez-moi. Allez-y, Maureen. Et Maureen au micro. Excusez-moi. Et ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons avancer et voir ensuite comment nous pouvons obtenir le soutien de ALAC. Merci beaucoup Maureen. Je ne sais pas. Et nous avons 24 heures de plus pour les commentaires, tout autre commentaire sur la page wiki. Et sinon, et nous allons passer à notre processus. Je vois un commentaire de Marita. Peut-être que cela peut être résolu dans les 24 heures. Cheryl, allez-y, vous avez la main levée. On vous écoute. Excusez-moi. Oui, Cheryl, au micro. Oui, merci, Ricardo. Heidi a abordé le premier point que je voulais mentionner. Ensuite, j'ai été mise en muette. Eh bien, me voilà donc. Je pense qu'on peut donner, un peu plus de 24 heures sans problème. Hein? Il y a des petites solutions que l'on peut appliquer ici. Et sachant qu'il s'agit de 24 heures et de différence, et ce qui veut dire avant le 1er juin, suivant le fuseau horaire, on peut essayer de déterminer une date et cela peut être accepté par le système de commentaires publics. Je pense que ce ne sera pas un problème. Voilà. Merci. Merci, Cheryl. Bien. Donc, 24 heures, ça a l'air d'être possible. Parfait. Le 29, nous allons soumettre cela. Et je ne vois pas d'autres mains levées concernant le PTI. Si tout le monde est d'accord, nous allons donc avancer dans ce sens. Bien. Prochain point, c'est le prochain appel. Nous pouvons organiser notre prochain appel pour la deuxième semaine du mois de juin, si tout le monde est d'accord. S'il n'y a rien à voir auparavant. S'il y a un changement au niveau du groupe de travail. Nous devrons voir comment organiser notre réunion de façon à ce que le CPWG qui se réunit toutes les semaines. Et nous avons décidé, nous, de nous réunir une fois par mois. Nous devons donc voir quelle semaine nous allons nous réunir. Je propose la deuxième semaine du mois, mais voyons, nous verrons après cela ce que vous en pensez. En tout cas, et ce sera dans 2 ou 3 semaines à partir de maintenant. Je n'ai pas d'autres points ici à aborder. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter et dans les divers. Bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bien. Je ne vois pas de main levée. Donc, je remercie à l'équipe de financement et qui a participé, d'ICANN.org, qui a participé à cet appel. Et je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé. Et je dirais qu'on a fait du bon travail. J'étais contente de voir qu'il y a davantage de monde à chaque appel. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Cette réunion est maintenant terminée. Merci à tous.